Abat l'impérialisme, abat le néocolonialisme. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent.
Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique.
La matinale décoloniale, une émission critique de la France-Afrique.
Sur Radio Campus Grenoble,
90.8.
Y'en a marre, c'est du racisme. Y'en a marre,
raciste étant.
Y'en a marre,
les lois racistes.
Y'en a marre,
les lois fascistes.
Y'en a marre.
Chaque mois, de l'actu,
de l'histoire,
des actions,
des luttes
et du bon son.
France, déguisement du franc CFA, fausse coopération.
France, dégage.
Soutien aux dictatures, massacre et pillage.
France, dégage.
La matinale décoloniale.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Un vendredi par mois, de 11h à midi.
Pour en finir avec l'Empire et toutes les colonies.
Salut!
Bonjour!
Hello!
Bonjour! Aujourd'hui, on va faire une émission consacrée au Soudan. Après s'être déroulée dans le plus grand silence médiatique, la guerre soudanaise a fini par faire parler d'elle au moment où la ville d'El Fasher est tombée le 26 octobre 2025, après un siège de plus de 18 mois. El Fasher, située au Darfour, comptait 250 000 habitants. Plus de 200 000 personnes sont disparues ou mortes à ce jour. Au Soudan, sur une population d'environ 50 millions, plus de 3 millions de personnes ont quitté le pays et 8,6 millions sont actuellement déplacés dans le pays. Il s'agit de la plus grande crise de déplacés au monde. Les richesses géostratégiques du Soudan, telles que l'accès à la mer Rouge et au canal de Suez, l'or, le cobalt, l'uranium, les hydrocarbures, les vastes terres agricoles, les eaux du Nil, la gomme arabique, sont l'objet de toutes les convoitises impérialistes. Les conflits armés qui déchirent le Soudan l'ont transformé en un espace où se croisent des intérêts régionaux et ceux des puissances extérieures qui écrasent jusqu'au soulèvement populaire lui-même. La guerre qui se déroule aujourd'hui au Soudan est une guerre pour s'accaparer ses richesses géostratégiques. C'est aussi une guerre contre la révolution et les révolutionnaires soudanais, comme l'expliquera Ahmad Gamal.
Alors avant de commencer, je vous propose une petite question de quiz. Comme à notre habitude, donc pendant 20 ans, les États-Unis ont mis en place un embargo pour empêcher l'importation de biens en provenance du Soudan, pour sanctionner une politique qu'ils estimaient trop complaisante envers les terroristes. D'après vous, quels produits n'étaient pas soumis à cet embargo ?
Ben, le pétrole ?
Non. Un produit moins connu, mais un produit phare au Soudan ?
La gomme arabique.
Exactement, bravo. C'est la gomme arabique. Donc c'est un produit stratégique pour l'agroalimentaire dont le Soudan est l'un des premiers producteurs et dont on reparlera un peu plus tard dans cette émission.
Super, merci. Et pour commencer, vous nous parlez un peu du contexte.
Et ouais, comme on est un peu fou à la matinale décoloniale, on s'est dit qu'on aimerait commencer l'émission par un rappel historique. Mais on s'est vite rendu compte que ça allait pas être facile, parce que comment résumer la riche et longue histoire du Soudan ? Dès l'Antiquité, en fait, le Soudan, c'est déjà un pays qui attire. Il a connu la civilisation nubienne, les pharaons égyptiens, les reines noires de la civilisation couchite, qui mêlaient un peu des influences africaines, méditerranéennes et moyen-orientales et qui ont laissé des traces qui sont aujourd'hui encore reconnues au patrimoine de l'UNESCO. C'est les pyramides de Méroé. Il y a eu ensuite le passage de royaumes chrétiens, une colonisation par des tribus arabes nomades. Bref, le Soudan, c'est un pays en fait de cultures multiples. Après avoir été longtemps sous la souveraineté égyptienne, en 1899, le Soudan devient un condominium, c'est-à-dire qu'il est sous la double domination du Royaume-Uni et de l'Égypte. Et il va obtenir son indépendance le 1er janvier 1956, suite à la révolution égyptienne. Donc les élites du Nord vont s'imposer dans la nouvelle administration et ils vont revenir sur leur promesse d'établissement d'un État fédéral entre le Nord, majoritairement arabe et musulman, et le Sud, majoritairement noir et chrétien ou animiste. Donc les révoltes vont éclater dès la première année de l'indépendance. En 1958, on a un coup d'État militaire. L'armée s'empare du pouvoir et les partis politiques sont interdits. Au sud se crée alors un front de libération. Il y aura ensuite de nombreuses alternances de pouvoir civil et militaire. Dans les années 80, la famine va provoquer d'importants déplacements de population et provoquer plus de 200 000 morts. En 1989, le général Omar el-Béchir arrive au pouvoir grâce à un coup d'État soutenu par le Front National Islamique. Les partis politiques sont alors de nouveau interdits. Va suivre une période de dictature qui va durer 30 ans, jusqu'à la récente révolution soudanaise qui a réussi, après plusieurs mois de lutte acharnée, à mettre fin à cette dictature. On y reviendra tout à l'heure.
Et à partir de 1983, une guerre commence dans la région de l'actuel Soudan du Sud. Elle fait suite à la découverte d'importants gisements pétroliers au sud et le gouvernement de Khartoum,
la capitale du Soudan,
est très intéressé par l'exploitation de ces gisements. Et il revient sur les accords de paix de la première guerre civile qui donnaient au Soudan du Sud une certaine autonomie. Et à ce moment-là, ça provoque un soulèvement et le début de la guerre au Soudan du Sud. Et cette guerre, elle va durer plus de 20 ans et elle prend fin en 2005. Elle est appelée la deuxième guerre civile du Soudan. Elle a déplacé plus de 4 millions d'habitants du Sud et fait 2 millions de mortes. Et 6 ans après la fin de la guerre, en juillet 2011, le Soudan du Sud devient indépendant. Et 2 ans après, le président et le vice-président entrent en guerre, ils instrumentalisent leurs ethnies et ça va être la guerre du Soudan du Sud indépendant qui va durer jusqu'en 2020, du coup de 2013 à 2020. Là, on va s'attarder un peu sur une autre guerre au Soudan car elle est importante pour comprendre les enjeux qui se passent aujourd'hui. C'est la guerre du Darfour. Au début des années 90, au Darfour, une région qui est située à l'ouest et qui est frontalière au Tchad, il y a un front de libération du Darfour qui se crée. Il deviendra plus tard l'armée de libération du Soudan. Et en 2003, les rebelles du front de libération du Darfour et du mouvement pour la justice et l'égalité, ils prennent les armes. Ils luttent contre l'injustice sociale, contre les discriminations et contre le racisme d'État. Du coup, l'État central, comme on l'a vu tout à l'heure, à ce moment-là, il est dirigé par Omar el-Béchir et il va répondre à la rébellion en armant des milices arabes pour aller en découdre avec les rebelles. Ces milices, ce sont les Janjaweed. C'est des milices qui vont être responsables de viols, de massacres, de pillages, de politiques de la terre brûlée dans les villes et les villages du Darfour. Et du coup, de 2003 à 2020, cette guerre, elle a fait 300 000 mortes et 2,7 millions de déplacés. L'État central, en armant les Janjaweed, il a transformé une guerre où des Darfouris voulaient la justice sociale et l'arrêt de discrimination en guerre civile entre différents groupes ethniques. Grossièrement, c'est vraiment un peu une manière très caricaturale de nommer les choses, mais c'est pour être un peu plus, pour simplifier, c'est entre d'un côté des tribus arabisées nomades qui forment les Janjaweed et de l'autre des peuples sédentaires qui se disent africains. Et les Janjaweed, ils vont devenir plus tard les forces de soutien rapide qu'on va voir dans la suite de l'histoire, parce qu'ils sont très présents actuellement. Et donc eux, ils prônent une supériorité arabe et ils sont accusés d'avoir commis un génocide au Darfour. Et Omar el-Béchir, l'ancien dictateur, il est mis en accusation en 2008 par la Cour pénale internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Et en 2020, il y a un accord de paix qui est signé entre différents groupes rebelles et le gouvernement soudanais pour mettre fin à la guerre du Darfour.
Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est des sons de manifestation qui étaient pendant la révolution soudanaise. C'est un extrait du documentaire « Soudan, souviens-toi » de Hind Medeb.
Et après cette présentation du contexte historique, on vous propose d'écouter Ahmad Gamal, exilé soudanais en France depuis 11 ans, qui va nous parler de la période de 2018 à 2023. Il est cofondateur de Sudfa Media, un média participatif franco-soudanais qui vise à documenter et commenter ce qui se passe au Soudan. C'est un collectif composé d'exilés soudanais et soudanaises en France et de militantes françaises qui publient des articles de personnes soudanaises exilées en Europe mais aussi d'acteurs révolutionnaires du Soudan. Il propose un billet hebdomadaire visant à décrypter et à expliquer l'actualité du Soudan sur les réseaux sociaux notamment, ou sur leur site internet, une série explicative appelée « Des clés pour comprendre la guerre au Soudan » et une brochure annuelle qui résume les événements de l'année précédente. Ils ont aussi réalisé un documentaire de 45 minutes qu'ils diffusent à travers toute la France, intitulé « Jusqu'au bout » et qui présente l'histoire du Soudan à travers le mouvement étudiant. On l'écoute donc évoquer les révolutions et le début de la guerre actuelle. Pardon.
Cette mobilisation révolutionnaire a commencé à la suite de trois crises majeures dans le pays. Crise économique, crise politique et crise sociale. À la suite de ces trois crises, les Soudanais sont descendus dans le rue en réclamant la chute du régime. Cette mobilisation se déroule pendant quatre étapes principales. La première étape qui commence du décembre 2018 jusqu'à avril 2019. Et pendant cette période-là, les Soudanais ils ont pu mener une mobilisation qui a fini par la chute du régime de Omar al-Bashir, qui a resté au pouvoir pendant 30 ans. Mais aussi, pendant cette période-là, les Soudanais, ils ont pu faire émerger la mobilisation révolutionnaire partout dans les pays et pas que les capitales. Et la deuxième étape de cette mobilisation révolutionnaire, c'est pendant la période de transition, et qui commence plutôt à partir de juin 2019 jusqu'à octobre 2021. Et à la suite d'une négociation entre les forces révolutionnaires et l'armée soudanaise, et un gouvernement de transition composé de 50% de civils et 50% de militaires a été mis en place pour mener une période de transition de 3 ans avant l'élection. Sauf qu'avant la fin de cette période de transition, il y a un coup d'État qui a été commis par l'armée soudanaise, ce qui nous fait rentrer dans la troisième phase de cette mobilisation révolutionnaire qui commence plutôt à partir d'octobre 2021 jusqu'à le moment où la guerre a commencé, c'est le 15 avril 2023. Pendant cette période-là, on a vu qu'il y a eu une grande mobilisation plus radicale, en fait, de celle de 2018 et 2019, et qui a réclamé le départ total de l'armée soudanaise de pouvoir politique pour laisser place pour les civils de gouverner. Donc voilà, la mobilisation a continué avec la mobilisation des syndicats, les comités de résistance, les partis politiques, mais aussi l'ensemble des collectifs dans le pays, jusqu'à le moment où la guerre a commencé, qui a fait entrer dans la quatrième étape de cette mobilisation révolutionnaire. Et malheureusement, cette guerre, en fait, elle a fait un départ massif de ces révolutionnaires, en fait, de ces gens qui étaient en train de se mobiliser avant ou juste avant le début de cette guerre. Donc, pour nous, cette guerre s'inscrit dans le cadre d'une guerre contre la révolution et c'est une stratégie, en fait, qui a été, en tout cas, bien pensé par l'armée soudanaise pour faire stopper cette mobilisation révolutionnaire. Pourquoi? Parce que si on regarde le trajectoire de cette mobilisation révolutionnaire, on se rend compte quand même que l'armée soudanaise ou les forces militaires au Soudan, ils ont déployé plusieurs stratégies et par lesquelles ils ont essayé de faire stopper cette mobilisation révolutionnaire. La première stratégie, c'était la répression. Et ça, c'est une stratégie qui a été plutôt utilisée pendant la première vague au tout début de la mobilisation révolutionnaire et qui a fait un bilan très lourd en termes de pertes humaines, mais aussi en termes de blessures et de disparitions, etc. Malgré les répressions, malgré les violences, les Soudanais ils ont continué à manifester jusqu'à la chute du régime. Et à ce moment-là, l'armée a compris que les violences, en fait, ne marchaient pas avec les manifestants soudanais. Et à ce moment-là, ils vont déployer une autre stratégie, et notamment, en fait, la récupération de la révolution, tout en essayant de faire croire aux révolutionnaires qu'ils sont là pour leurs accompagner, qu'ils sont là, en fait, voilà, pour aider les révolutionnaires à réaliser l'objectif de la révolution. Sauf qu'on a compris très vite, en fait, que les gens qui revendiquent ce discours-là, c'est des gens, en fait, voilà, qui font partie de l'ancien régime. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce jeu-là. À ce moment-là, ils vont essayer de mobiliser notre stratégie, et notamment le coup d'État, tout en espérant que le jour où on fait un coup d'État, on va s'emparer avec le pouvoir et les gens rentrent chez eux et à partir de ce moment-là, il y aura plus de mobilisation révolutionnaire. Sauf qu'à la suite de ce coup d'État, il y a eu une mobilisation qui est encore plus forte que celle précédente, qui a éclaté et qui a continué jusqu'à le moment où la guerre a commencé. La dernière stratégie qui a été pensée par la force armée au Soudan, c'est de déclencher la guerre, créer le chaos dans le pays, tout en espérant de reprendre le contrôle un jour. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, qu'il s'agit d'une guerre civile et qu'il s'agit d'une guerre tribale ou d'une guerre religieuse, je pense que c'est loin d'être la réalité, c'est loin d'être le cas. La vérité, c'est qu'une guerre contre la révolution et les révolutionnaires.